With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport.
Bonjour, c'est Glenn Cellier, journaliste aussi chez Eurosport.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato. Comment ça va, Glenn? Glenn, t'as une très belle chemise aujourd'hui.
Eh ben, je trouve que ta chemise te va aussi à ravir. Et oui, on a été très bon en effet ce matin quand on s'est levé. On s'est mis, sans s'appeler d'ailleurs, mais on a réussi à trouver les mêmes chemises, exactement les mêmes. Même modèle, même marque. Parfait.
Comme quoi, il se passe quelque chose entre nous,
ouais, c'est vrai,
même
c'est
si beau, ça n'a ouais. pas l'air comme ça. Bienvenue dans cette émission qui va évidemment tourner beaucoup quand même autour de la Coupe du Monde qui débute dans quelques jours. On vous a préparé un petit programme aux petits oignons, Glenn, avec un premier sujet justement sur cette Coupe du Monde. Est-ce que ce mondial est forcément un révélateur de talent? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges? On a essayé d'observer tout ça, d'en tirer des conclusions. Et on verra qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement.
Oui, exactement. Le deuxième sujet, ce sera encore sur la Coupe du Monde. Et on va se demander pourquoi ce mondial tombe mal pour les clubs. On va notamment creuser sur les joueurs qui sont en fin de contrat.
Et puis, troisième sujet, on était obligé de revenir sur les informations du début de semaine qui ont eu des conséquences autour de Cristiano Ronaldo, évidemment. Le Daily Mail qui annonce mardi que l'entourage de Cristiano Ronaldo a repris contact avec la direction du Bayern Munich. On se demandera pourquoi on ne croit pas à un transfert, on ne croit toujours pas à un transfert du Portugais vers le club bavarois. Et puis, en toute fin d'émission, le Merca Quiz sous haute tension.
Avec un certain Quentin Guichard. Absolument. Et on espère qu'il aura la même chemise, évidemment.
Ce qui est moins sûr, il aime plus les couleurs à
flèche. Ouais, je pense qu'il va égayer un peu cette émission.
On vous rappelle que vous retrouvez cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et même les mauvaises. On vous rappelle aussi que...
C'est lequel, les mauvaises, du coup?
On ne donnera pas de nom. On vous rappelle aussi que vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission sur eurosport.fr en vidéo. Et pour retrouver le podcast, c'est très simple. Vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouvez toutes les émissions foot. Tour d'Europe, mercredi Mercato et le FC Stream Team le vendredi.
Let's go.
On peut y aller.
On est parti.
Premier sujet, donc. La Coupe du Monde est-elle forcément révélatrice de talent? On a pensé à beaucoup de joueurs, on avait très envie de faire ce sujet avec Glenn. On le sait, il y a souvent des talents qui se révèlent comme ça en plein mondial, qui explosent littéralement en pleine compétition. Et on voulait se demander si c'était forcément gage de sécurité pour les clubs ensuite, pour des transferts notamment. On a quand même plusieurs arguments, plusieurs contre-exemples. On a dégagé une constante, c'est qu'une bonne Coupe du Monde, Glenn, est forcément une garantie sur l'augmentation de la valeur marchande pour un joueur. C'est-à-dire qu'un joueur qui réussit sa compétition verra forcément son prix sur le marché augmenter indépendamment de ce qui se passe ensuite.
Ouais, ce qui est assez logique au final, parce qu'on le sait, la Coupe du Monde est l'événement le plus regardé au monde, le plus suivi. C'est là où on attend que les plus grandes stars se révèlent. Et forcément, si un joueur brille dans cet événement, on pense souvent que la Coupe du Monde est là où le niveau est le plus élevé. Et forcément, si un joueur brille dans ces moments-là, il voit sa cote augmenter et du coup, le prix de son transfert augmenter aussi, parce que les prétendants sont souvent plus légion après une Coupe du Monde réussie. Et on a quelques exemples là-dessus, Julien. Je pense notamment le premier, un Français, Benjamin Pavard, à la Coupe du Monde 2018.
Benjamin Pavard, Coupe du Monde 2018, qui était un joueur de Stuttgart, un bon joueur du championnat allemand, avant de disputer sa Coupe du Monde et de remporter la Coupe du Monde avec les Bleus en 2018, et qui a signé au Bayern Munich
six mois plus tard,
avec un transfert. Alors pour le coup, c'était une clause libératoire qui était à 30 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. 35 même, je crois.
35 millions d'euros. Et donc, ça avait vraiment changé sa carrière, parce que quand le Bayern l'accueille en 2019. Le tweet d'accueil d'annonce du transfert du Bayern, c'est « Il est un jeune champion du monde. Nous sommes très heureux et fiers d'avoir été capables d'accueillir un tel joueur au Bayern. » C'est un exemple. Il y en a d'autres.
Sur Pavard, en fait, il sortait déjà d'une bonne saison avec Stuttgart. On savait qu'il commençait à se faire un nom en Bundesliga, mais la Coupe du Monde a clairement l'a fait changer de catégorie, changer de registre. Et en gros, on le sait, les six mois après la Coupe du Monde, d'ailleurs, il a eu du mal à se remettre dans le bain. Avec Stuttgart, il était moins performant. D'ailleurs, Stuttgart, collectivement, était aussi moins bon. Et ça n'a rien changé. Le Bayern a été séduit par sa Coupe du Monde, avait été séduit par ses performances avant la Coupe du Monde, mais aussi pendant le Mondial. Et c'est pour ça que le club bavarois a été payé sa clause libératoire à ce moment-là.
Il y a un autre exemple qui concerne aussi le Bayern Munich et qui est peut-être encore plus criant, c'est celui de Lucas Hernandez, qui lui était un joueur de l'Atlético, qui a vu vraiment sa valeur marchande exploser avec son Mondial qui a été vraiment, pour le coup, réussi avec l'équipe de France. On vous a donné ces chiffres-là, alors c'est des chiffres de Transfermarkt. Sa valeur avant la Coupe du Monde était fixée à 30 millions d'euros, estimée à 30 millions d'euros. Juste après la Coupe du Monde, après la victoire des Bleus, elle était à 40 millions d'euros. Et finalement, Hernandez, il a été transféré un an plus tard, donc en 2019, au Bayern Munich pour le double de sa valeur marchande, 80 millions d'euros, qui correspondait aussi à sa clause libératoire. Mais là aussi, on voit que, indépendamment de ce qui se passe après la Coupe du Monde, sur les mois qui suivent le Mondial, finalement, la Coupe du Monde écrase tout et convainc les clubs de payer le prix fort.
C'est clairement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas illogique. On sait, c'est le prix mondial, c'est-à-dire que tout le monde regarde à ce moment-là un joueur qui brille avec cette pression. On le sait, il y a une pression considérable pour les joueurs pendant la Coupe du Monde parce que, évidemment, ils se savent attendus par la nation, par une nation. Et quand tu brilles, notamment dans une équipe comme l'équipe de France où il y a encore peut-être plus d'attentes que dans d'autres sélections, et forcément, la valeur des transferts augmente derrière. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, souvent, c'est pas forcément, le transfert n'a pas lieu forcément juste après la Coupe du Monde. Souvent, il y a un petit temps derrière, aussi le temps, parce que alors, c'est un peu particulier. C'est ce qui rend aussi ce mondial très, très particulier là, parce que d'habitude, ça a lieu en été. Mais malgré ça, le transfert a toujours lieu un peu après, enfin, pas toujours régulièrement lieu. Et là, cette fois-ci, il y aura deux fenêtres des transferts. Donc, c'est-à-dire celle du mercato hivernal juste après la Coupe du Monde et celle de cet été dans 6 mois. Donc forcément, ça change beaucoup de choses.
Oui, parce que le marché estival est de toute façon toujours plus important que le marché hivernal. Exactement. Il y a rarement des très gros transferts en hiver. Là, finalement, il y aura la Coupe du Monde, il y aura des joueurs qui vont performer et qui, dans 6 mois, seront déjà au cœur de grosses négociations pour des gros clubs. On vous a aussi pris un contre-exemple qui montre que finalement, réussir une bonne Coupe du Monde, c'est une garantie, ça offre des garanties sur la valeur marchande, pas forcément sur ce qui se passe ensuite sur le plan sportif. Et pour illustrer cet argument-là, on a pris l'exemple de James Rodriguez, qui lui avait réussi un mondial formidable en 2014 avec la Colombie.
6 buts en 5 matchs, il marque à tous les matchs.
Dont un extraordinaire, qui était le plus beau but de la compétition, si je ne dis pas de bêtises. À ce moment-là, alors c'était pas tout à fait une révélation à nos yeux parce qu'il avait déjà été transféré à Monaco, il avait explosé à Porto sous les ordres de Villas-Boas. Monaco avait décidé de dépenser une somme importante pour en faire la figure de proue de son nouveau projet. Mais finalement, cette Coupe du Monde 2014 réussie, elle convainc le Real Madrid de lâcher 70 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Et puis derrière, on sait très bien que ça ne s'est pas forcément passé comme on avait pu l'imaginer à l'époque, parce qu'il a vécu des mois compliqués, il y a eu du bien et du moins bien avec Ancelotti, avec Zidane. Il y a eu ce prêt au Bayern Munich ensuite, ça n'a pas marché. Puis des passages en Angleterre aussi. Ouais. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout un joueur important en Europe. Donc ça démontre quand même que cette Coupe du Monde, si vous faites un grand mondial, vous avez la certitude d'avoir un gros transfert par la suite. Mais ça ne garantit rien sur les saisons suivantes, finalement.
Non, Ramès, c'est exactement le bon exemple du ce joueur qui change de registre grâce à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette capacité qu'a la Coupe du Monde de faire une star d'un joueur parce qu'il se met à briller justement avec sa sélection. C'est en gros, tout d'un coup, du jour au lendemain, Ramos était un super joueur de Ligue 1, un très bon joueur, c'est ce que tu dis à Porto, il était déjà très bon, on savait que c'était un bon joueur. Mais le fait qu'il brille avec la Colombie peu dans ce mondial 2014 fait que tout d'un coup, c'est devenu une superstar. Et le Real l'achète notamment pour ça, parce qu'il y a aussi le buzz autour de Ramos, ce potentiel marketing qui existe autour de lui après cette Coupe du Monde réussie.
Tout à fait. Et puis, pour illustrer que ça peut aller du tout au tout, ou plutôt du tout au rien, on vous a repris un dernier exemple, enfin plutôt deux derniers exemples, celui de Jordan Lechkov. Alors, pour les plus jeunes parmi ceux qui nous écoutent, Lechkov, c'est un Bulgare qui s'est révélé d'abord à la Coupe du Monde 94, où la Bulgarie a atteint les demi-finales. Je crois qu'il marque d'ailleurs contre l'Allemagne au tour précédent. C'est lui qui qualifie la Bulgarie. Il fait son Euro aussi, alors qu'il est beaucoup moins réussi pour la Bulgarie en 96, et il signe dans la foulée avec Marseille. Autrement dit, c'était un nobody quasiment avant la Coupe du Monde, il joue en Allemagne.
Ouais.
Il a continué, il a signé à Marseille, et ça ne s'est pas très bien passé. Ça s'est même plutôt mal passé à Marseille pendant une saison. Et il est finalement redevenu quasiment anonyme par la suite. Il est parti en Turquie. Donc ça montre que la Coupe du Monde peut aussi être une parenthèse pour des joueurs de cette envergure-là. Et puis, ça peut être un tremplin et lancer complètement une carrière qui sera formidable. Et pour illustrer cela, on peut évoquer un exemple qui est évident, c'est celui de Franck Ribéry.
Ouais, Franck Ribéry, évidemment, qui était à Marseille. On se souvient, quand il est appelé en 2006 pour la Coupe du Monde, il n'était pas forcément attendu. Il fait une Coupe du Monde folle. C'est l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde 2006. Et derrière, il reste à Marseille. Mais le Bayern, il ne fait pas une saison. D'ailleurs, il n'y a pas de Coupe d'Europe avec Marseille cette année-là. Il est souvent blessé en octobre, en février. Il rate pas mal de matchs. Mais malgré ça, le Bayern est dessus parce que notamment le Bayern vient le chercher parce que notamment il est flamboyant à la Coupe du Monde 2006. C'est ce qui change sa carrière, c'est vraiment le tremplin typique, et derrière il ne fait que confirmer. Il est excellent, on se souvient évidemment avec le Bayern où il fait une carrière fantastique.
Ouais, on vous a même remis les titres en visuel sur Eurosport.fr. 22 titres avec le Bayern,
ouais.
Champion d'Europe, champion multiple, champion d'Allemagne notamment, troisième du Ballon d'Or en 2013, bref, carrière phénoménale. Et d'ailleurs, 2006, souvenez-vous, avant de prendre la décision, plutôt d'être forcé de rester à l'Olympique de Marseille, il dit publiquement en conférence de presse qu'il veut rejoindre Lyon juste avant la Coupe du Monde. Finalement, il est retenu à la fois par Pape Diouf et par Dreyfus, à l'époque propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et puis, finalement, le bon choix, puisqu'il signe au Bayern Munich pour 30 millions d'euros un an plus tard. Donc finalement, tout ça démontre, et c'est ce qui est intéressant dans cette petite étude, c'est qu'une grande Coupe du Monde peut à la fois vous garantir une carrière gigantesque, à la fois vous projeter sous les projecteurs, puis faire en sorte, enfin, avant de retomber dans l'anonymat, et puis il y a des exemples un petit peu plus contrastés comme James Rodriguez.
Mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant cette Coupe du Monde qui arrive, parce qu'il y en a forcément qui vont arriver. Il va y avoir ce qui permet pour moi, pour la Coupe du Monde, c'est de s'assurer du talent d'un joueur. C'est-à-dire qu'il y a souvent des joueurs où on sait qu'ils ont du potentiel, on sait qu'ils ont un talent, et quand ils brillent à la Coupe du Monde, bah, ça permet de s'assurer de ça. On sait le potentiel, on sait qu'il est capable. Exactement. Et il y en a d'autres d'ailleurs, parce qu'on a parlé évidemment de Ribéry, mais en l'Euro 2004, il y a Wayne Rooney qui a un formidable talent en Angleterre, qui est à Everton à ce moment-là. Il fait un Euro fantastique avec l'Angleterre. Derrière, Manchester vient le chercher. C'est le début, c'est le tremplin, parce que Manchester est sûr, après son Euro, qu'il est capable d'assumer, qu'il a les épaules pour. L'autre exemple qui me vient en tête, il y a Gilberto Silva. On sait qu'il jouait à l'époque au Brésil et qui, en fait, montre pendant la Coupe du Monde 2002 qu'il est capable d'assurer avec le Brésil au plus haut niveau. Il joue tous les matchs et du coup, forcément, derrière, il y a des clubs qui viennent chercher, Arsenal, et on sait ce qui se passe derrière Arsenal. Après, voilà, on l'a très bien dit, c'est pas pour ça que c'est le paradis du scoutisme, des scouts, pardon, parce qu'il y a le risque quand même d'avoir, de récupérer des joueurs qui sont les joueurs d'un tournoi. C'est-à-dire parce qu'on brille, parce que c'est la Coupe du Monde, parce qu'on est bien à ce moment-là, parce qu'il y a une dynamique personnelle, une dynamique d'équipe où tout fait que les voyants sont ouverts et vont dans le même sens. Et c'est le risque pour les clubs, c'est d'aller surpayer un joueur parce qu'il a brillé à la Coupe du Monde et que derrière, il n'est peut-être pas capable de refaire ce qu'il a fait pendant un mois.
Il peut y avoir le fameux phénomène de décompression aussi après une Coupe du Monde réussie, où là, ça devient plus compliqué pour les mois suivants. Tu as parlé de Rooney, on peut parler aussi pour l'Euro d'Andriy Arshavin, qui avait été formidable avec la Russie, qui ensuite a pu signer à Arsenal. Je crois qu'il avait même signé avant, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus, bref.
Non,
en tout
non,
cas, il s'était révélé avec la Russie et il a fait sa carrière ensuite
en Angleterre.
Joueur fantastique,
ouais, mais... totalement.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour
clairement
sur ce sujet-là. On va enchaîner tout de suite en restant toujours sur la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, en prenant le point de vue des clubs, parce que pour les clubs, pour les grands clubs européens et même pour tous les autres, cette Coupe du Monde tombe vraiment mal. Alors, une Coupe du Monde pour un club, ça tombe jamais vraiment bien.
En général, c'est pas.
C'est très rare. Là, c'est particulier parce qu'on l'a dit avec cette Coupe du Monde en hiver, il y a l'incertitude sur le plan physique. Ça, pour tout ce domaine-là, je vous conseille d'écouter l'émission de lundi Tour d'Europe avec Cyril, où vraiment Philippe Auclair, notamment, a apporté un point de vue très intéressant sur ce plan-là. Sur le plan des transferts, c'est un petit peu pareil parce que ça complique vraiment la tâche des clubs pour la simple et bonne raison que la plupart des grands joueurs refusent d'entamer des négociations, que ce soit sur des prolongations de contrat, sur des transferts, avant de disputer le Mondial, ouais. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne souhaitent pas être parasités par autre chose que leur aventure en Coupe du Monde. Il y a un exemple évident qui nous vient en tête, c'est celui de Lionel Messi. Il y en a beaucoup d'autres. Et pour illustrer le nombre, en tout cas le volume de joueurs qui arrivent en fin de contrat, par exemple en juin prochain, et qui doivent négocier leur avenir assez tôt, on vous a concocté une petite équipe type des joueurs en fin de contrat en 2023. Et vous verrez, elle a de la gueule, comme on dit.
Ouais.
On vous a... Alors, on va faire ligne par ligne, peut-être.
Ouais, ce sera plus facile. On va commencer par, évidemment par la défense. Vous allez voir que l'attaque est fantastique, mais on va déjà commencer par la défense. Bon, pour le gardien de but, on a sélectionné Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach.
Oui. International suisse.
International suisse, évidemment. Derrière, Diego Dalot de Manchester United, qui sera avec le Portugal.
De Vrij, de l'Inter.
Thiago Silva de Chelsea.
Et Rafael Guerrero de Dortmund.
Ce qui fait déjà du beau monde.
Déjà une belle défense. Alors,
Thiago, c'est particulier d'ailleurs. Thiago, je dis que c'est particulier parce qu'il a 38 ans, il va jouer avec le Brésil, il va forcément se mettre en avant d'une manière ou d'une autre. On sait que c'est un taulier des Blues. Et à 38 ans, se pose un peu la question, il est en fin de contrat en juin prochain, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il l'a dit, il est plutôt, il a envie de continuer, il a envie de jouer jusqu'à 40 ans. Et il a envie aussi de continuer avec les Blues. Reste à savoir si Chelsea va se conserver. Ça va être un beau sujet. Et s'il fait une Coupe du Monde, lui, il a dit d'ailleurs qu'avant ou après, qu'en gros, pendant la Coupe du Monde, il voulait être concentré sur le Mondial. Mais voilà, que son avenir, il l'avait dans un coin de la tête. Et qu'après, s'il fait une super Coupe du Monde, ça peut changer aussi pas mal de choses.
D'autant que quand même, il y a eu beaucoup de changements à Chelsea. C'était le chouchou de Tuchel.
Ouais.
Il y a Potter qui est arrivé. Il y a un nouveau propriétaire. Donc, difficile de savoir quelle sera la politique de Chelsea vis-à-vis du défenseur brésilien. On peut continuer, Glenn, avec les clairement milieux de terrain. Là aussi, on a un très beau milieu de terrain avec Youri Tielemans de Leicester, l'international belge. Ilkay Gundogan
de Manchester City,
l'international allemand.
Ouais, qui est suivi par du monde, PSG, l'Atlético. Enfin, il y a du monde sur lui.
Parce que c'est un formidable joueur.
Exactement.
Adrien Rabiot de la Juventus, qui lui aussi, c'est un petit peu particulier. Il y a eu cet été où vraiment on l'a annoncé sur le départ,
ouais,
notamment vers Manchester United. Finalement, il est resté à la Juventus après, a priori, des demandes salariales trop élevées. Il a plutôt réussi sa première partie de saison avec le club turinois. Maintenant, quelle sera la situation du joueur en l'été prochain? Parce que c'est toujours compliqué. La Juventus a
et
des gros problèmes financiers. Et avec Rabiot, c'est toujours compliqué, c'est vrai. La Juventus a toujours besoin de fonds.
Ouais.
Rabiot a un salaire qui est très élevé, mais Rabiot est aussi un joueur qui est plutôt intéressant sportivement. Donc il y aura un choix à faire et là aussi, négociations qui n'ont toujours pas été entamées, même si la tendance est plutôt à une prolongation, a priori.
La tendance, en tout cas, est que la Juve, les dirigeants Bianconeri ont plutôt envie maintenant de se mettre à la table et de négocier pour qu'on prolonge. Parce qu'on le sait, Massimo Allegri veut le garder. Parce que c'est devenu, là, ces dernières semaines, il est très bon à la Juve. Il a montré qu'il était de retour, qu'il est, devenu une pierre angulaire du jeu de la Juve qui redresse un peu la tête. Et le problème de Rabiot, c'est qu'il est très gourmand aussi. Et que pour la Juve, ça va être compliqué, qu'il va y avoir, à mon avis, du beau monde dessus. Surtout s'il fait une belle Coupe du Monde avec les Bleus. On sait l'état du milieu de terrain des Bleus en ce moment. Si lui se met en avant, ça peut changer aussi pas mal de choses. Parce que ça va forcément donner envie à des clubs de venir au renseignement et peut-être s'immiscer dans les discussions avec la Juve.
On passe à l'attaque, à la grosse attaque.
Là, oui, la magnifique
avec
attaque.
Lionel Messi. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais ouais, on va pouvoir en reparler juste après. Avec le Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, là aussi, c'est il sera au cœur de notre troisième sujet, donc on va l'évoquer. Et Memphis Depay, au FC Barcelone, qui était arrivé avec Koeman, et qui depuis n'a plus du tout le même crédit sportif aux yeux de Xavi, et qui va vraisemblablement partir d'ici l'été prochain.
Il est plus en odeur de sainteté, et même, tu dis l'été prochain, même il y a des rumeurs peut-être possible pour janvier, parce que en effet, là on sait, il s'est blessé, donc il a moins joué, mais normalement il est plus pas vraiment dans les plans de Xavi au Barça, et du coup il y a même des rumeurs dès janvier, parce que évidemment ça peut être une aubaine à 6 mois de la fin de son contrat.
On peut évoquer Lionel Messi, ouais. Luis Campos, le directeur sportif officieux du Paris Saint-Germain, a déjà annoncé qu'il était plutôt tenté par une prolongation de contrat. On sait qu'une option de prolongation figure dans le contrat de Lionel Messi, mais qu'a priori, elle serait plutôt à la discrétion du joueur. Autrement dit, c'est lui qui a la main sur son avenir. Il y a eu de nouveau ces dernières semaines des rumeurs l'envoyant au FC Barcelone. Laporta a été amené à s'exprimer là-dessus en jouant un petit peu la montre. Lui, le joueur, on sait qu'il a pris la décision de ne rien négocier avant cette Coupe du Monde, parce que c'est probablement sa dernière Coupe du Monde.
C'est le dernier grand objectif de sa carrière.
C'est absolument, c'est le titre qui manque à son palmarès. Mm. Et donc là, vraiment, le PSG va devoir la jouer serrée s'il souhaite conserver Lionel Messi, parce qu'il n'y aura que quelques mois pour trouver un accord, tout en sachant que si cette option-là n'est pas activée, d'autres clubs, on pense au FC Barcelone, même si ce sera compliqué a priori financièrement, pourront négocier avec l'Argentin.
Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a commencé peut-être lui à avoir une idée sur ce qu'il a envie de faire. Pour le PSG, ce qui est rassurant, c'est que là, il est bien. Il est enfin bien dans ses crampons, j'allais dire, à Paris. Il se met en avant. On découvre un peu le Messi cette saison qu'on avait envie de voir quand il est arrivé à Paris. Mais c'est sûr qu'il l'a dit d'ailleurs hier, il a donné une interview un média sud-américain, je ne me souviens plus du nom, où il a dit, en effet, je pense que je n'aurais pas encore beaucoup, sous-entendant à 35 ans, qu'il n'allait pas, lui, prolonger sa carrière éternellement et peut-être pas faire l'année de trop. Ce qui me laisse sous-entendre qu'il est peut-être aussi dans une logique de chercher peut-être un dernier défi dans sa carrière. Et dernier défi,
MLS.
Et voilà, c'est ça. Moi, je sens bien un petit... je sens bien la MLS. Et c'est vrai que, en tout cas, je pense que pour lui, ce ne serait pas une bonne idée de retourner au FC Barcelone. Il a tourné la page. Là, ça a été dur. Il a pleuré. Mais je pense qu'à 35 ans, s'il réussit une belle Coupe du Monde, s'il va au bout avec l'Argentine, imaginons, il aura rempli presque toutes les cases. Il aura enfin montré, même s'il l'a déjà montré avant, qu'il peut briller en club, mais aussi en sélection. Et je pense qu'un dernier défi à ce moment-là pourrait changer la donne. Après, voilà, tout est ouvert. Tout est ouvert, mais je pense que la Coupe du Monde peut être un déclencheur pour l'avenir de Lionel Messi.
Rappelons quand même une chose, tu l'as dit, sportivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur les négociations, physiquement aussi, parce qu'une blessure à la Coupe du Monde, ça peut complètement compromettre un transfert.
Surtout pour un joueur qui est dans ce...
Alors, évidemment, on ne le souhaite pas, mais on peut prendre l'exemple de Christopher Nkunku, qui, même si a priori, c'est pas une blessure très grave, c'est une entorse à la cheville, si je dis pas de bêtises. Nkunku, il a réussi une formidable première partie de saison, à tel point qu'on l'évoquait au Bayern Munich pour l'été prochain. Cette Coupe du Monde, mine de rien, il aurait pu avoir un rôle à jouer. Alors, il n'aurait pas été titulaire, mais il aurait pu avoir un rôle à jouer. Ça aurait pu changer beaucoup de choses, justement, pour ce transfert-là. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Attention aussi sur le plan...
Il y a d'autres exemples, Marcus Thuram est aussi dans cette catégorie des joueurs en fin de contrat. Et c'est sûr que s'il se montre à la Coupe du Monde, on sait que le Bayern était déjà un peu dessus récemment. S'il se montre à la Coupe du Monde, vu ce qu'il montre en club actuellement, ça peut changer aussi beaucoup de choses, même s'il part un peu de loin, vu l'attaque actuellement des Bleus. Mais ça, c'est sûr que ça peut être un vrai tremblant. D'ailleurs, il y en a beaucoup, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Karim Benzema qui est en fin de contrat avec le Real. Alors, c'est pas encore très clair, mais normalement il y a une clause. C'est pour ça qu'on l'a pas mis dans l'équipe type, parce que normalement il y a une clause à partir du moment où il a eu le Ballon d'Or. Le Real fait souvent ça, c'est automatique. Il y a derrière une prolongation. Voilà, donc on l'a pas mis. C'est pareil pour Luka Modric. Normalement, c'est des gens qui sont plutôt bien avancés.
Ouais, on n'a pas mis les joueurs du Real parce que c'est aussi la politique du Real de négocier assez tardivement ces prolongations de contrat, parce que le Real est le Real et qui peut se permettre d'attendre un petit peu plus longtemps pour prolonger ses joueurs et notamment ses cadres.
Ouais, et c'est des profils, c'est ce que tu dis quand tu parles de cadres, c'est exactement ça. C'est des profils qui sont attachés aussi au Real, qui sont là depuis des années, qui ont fait leur carrière grâce au Real et enfin aussi le Real a aussi brillé grâce à eux. Hein. Donc du coup, ils sont pas forcément inquiets sur ces situations-là.
Mais on pouvait aussi citer par exemple Youssoupha Moukoko, ouais. Révélation,
ça, c'est une vraie,
du Borussia, qui est lui aussi en fin de contrat en juin. Bref, il ne manque pas de joueurs en fin de contrat en 2023. On parlait juste avant du Bayern Munich, on va de nouveau en parler dans notre troisième partie. Quelle la
transition.
Fameuse... Ouais, je suis bon en transition.
Tu m'impattes, Dan, de semaine en semaine, tu t'améliores dans tes transitions.
Vestimentairement
aussi, du coup, aujourd'hui. Mais...
Ce qui est bien, c'est que du coup, tu ne peux pas me critiquer sur ça. Troisième partie traditionnelle, pourquoi on n'y croit pas, qui cette semaine devient un pourquoi on n'y croit toujours pas. Pour la simple et bonne raison que c'est le retour d'une rumeur qu'il y avait déjà eu l'été dernier, qui n'était pas qu'une rumeur d'ailleurs, qui était plutôt une information. Ronaldo au Bayern Munich, le Daily Mail qui nous annonce mardi, après la révélation, en tout cas l'interview choc de Cristiano Ronaldo en début de semaine chez Piers Morgan, où là vraiment le divorce avec Manchester United a été acté, le Daily Mail nous annonce que l'entourage de Ronaldo, notamment son agent Jorge Mendes, a repris contact avec le club bavarois en vue d'un transfert, et que le club bavarois serait un petit peu plus ouvert, notamment parce qu'il y a une inquiétude autour de l'état de santé de Sadio Mané. Glenn, est-ce que toi, dans ce nouveau contexte-là, tu crois à un transfert de Ronaldo au Bayern
Munich ? Non, toujours pas, j'avoue. Déjà parce que Sadio Mané, on le rappelle, il est quand même à la Coupe du Monde, il a été pris dans les, avec le Sénégal. Normalement, il devrait rater les trois premiers matchs, mais du coup, ça laisse sous-entendre que la blessure n'est pas si
grave
pas
d'une
que
blessure,
ça.
D'une blessure dramatique.
Voilà, c'est ça. Donc derrière, il reviendra dans un mois, enfin au pire, dans un mois. S'il avait été blessé pour six mois, alors peut-être qu'on n'a pas les infos, mais peut-être que si c'est ça... Je pense que ça change, en effet, ça peut changer un peu la donne. Après, je trouve que tout simplement, Ronaldo ne correspond pas, toujours pas, aux caractéristiques du Bayern Munich. On se rappelle que Kahn, le président du Bayern, l'avait dit cet été, nous sommes arrivés à la conclusion, malgré tout, l'estime que nous lui portons, qu'il n'aurait pas correspondu à la philosophie, la philosophie du Bayern, évidemment, dans la situation actuelle. Ça, moi, c'est un peu l'idée que j'en ai. Je vois pas le Bayern se positionner sur Ronaldo. Pour Ronaldo, évidemment, ce club aurait tout pour lui plaire. Non. C'est-à-dire, on le sait, il veut briller en Ligue des Champions, il veut continuer d'améliorer son record de buts en Ligue des Champions. C'était notamment pour ça que cet été, il avait demandé son départ de Manchester, parce qu'on le sait, Manchester n'était pas qualifié en Ligue des Champions. Donc c'est sûr, ça coche, c'est un grand club qui joue encore Ligue des Champions, ça coche beaucoup de cases pour Cristiano Ronaldo pour essayer de rebondir après cet épisode Manchester United qui a été catastrophique. Mais malheureusement, à mes yeux, je pense que ce qui s'est passé aussi là à Manchester ne va pas plaider sa cause auprès des dirigeants bavarois. Malheureusement, ce qu'il a fait, que ce soit son interview, son comportement des derniers mois, entre le fait qu'il soit parvenu à l'heure à l'entraînement cet été, tout ce qui s'est passé, ces petites crises d'ego exactement, et son interview, sa dernière interview là, dans la presse britannique, qui a été une bombe, je pense que tout ça va faire dire aux dirigeants bavarois qu'en effet, il ne correspond pas à la philosophie du club. C'est pas l'image du Bayern. Et puis en ce moment, il y a Choupo-Moting qui devant s'illustre. Alors bien sûr, ils ont besoin d'un avant-centre, ils ont besoin d'un autre. On le sait, ils se placent notamment sur Marcus Thuram, on en a parlé tout à l'heure. Mais j'y crois. Je vois pas le Bayern aller se positionner sur le Ronaldo pour les six derniers mois de la saison.
Oui, je pense que tu l'as très bien résumé. Le Bayern a fait ce choix d'ignorer la piste Ronaldo l'été dernier. Ce qui s'est passé depuis lui a plutôt donné raison, parce qu'en Ligue des Champions, le Bayern a cartonné. Quand championnat, ça a été un petit peu compliqué à l'allumage, il y a eu un petit retard à l'allumage, mais maintenant, le Bayern est de nouveau aux commandes. Que finalement, tout est bien huilé, qu'il n'y a pas de tête qui dépasse, alors que si vous faites venir Ronaldo, il y aura forcément une tête qui dépassera. Et puis, il y a quelque chose qui va peut-être paraître anodin, mais qui ne l'est pas forcément et sûrement pas pour les Allemands, c'est cette fameuse déclaration sur Ralf Rangnick où Ronaldo a dit qu'il ne le connaissait même pas quand il est arrivé à Manchester United. Rangnick, on peut vous assurer qu'il est très connu en Allemagne, qu'il est très connu des dirigeants bavarois, qu'il est aussi très connu de Nagelsmann. ça montre quand même qu'il y a une vraie incompatibilité justement entre la philosophie du club et Ronaldo. Et puis, il y a une dernière question qui est importante, c'est celle du salaire.
Ouais.
On sait que le Bayern n'est pas habitué à faire des folies, en tout cas sur le plan des salaires. C'est devenu un petit peu plus le cas sur le plan des prix des transferts, mais sur le salaire, il y a une vraie politique au Bayern Munich, et que Cristiano Ronaldo, il continue de toucher près de 420 000 euros par semaine, ce qui représente 22 millions d'euros. Difficile d'imaginer, encore une fois, le Bayern faire une entorse à cette règle-là, sous prétexte qu'il y a une inquiétude autour de Mané, inquiétude qui, on le rappelle, est, au moment où l'on parle, pas gigantesque.
Non, et alors il pourrait faire un effort, Ronaldo, évidemment, pour son salaire, mais pour le moment, ce n'est pas les échos qu'on a. Ouais. Ronaldo a un certain ego, il sait aussi ce qu'il rapporte au club, parce que signer Ronaldo, ça permet de vendre aussi beaucoup de maillots, donc ça, il en a conscience, Ronaldo, à juste titre d'ailleurs, et du coup, je ne suis pas sûr qu'il ferait des gros efforts, même si c'est pour relancer sa carrière et s'offrir un dernier challenge qui serait en effet pour lui hyper excitant en allant au Bayern. Le problème, c'est que de l'autre côté, ce n'est pas forcément réciproque.
Ce qui est hyper excitant, Glenn, aussi, ah, c'est pas ta chemise, pourtant, c'est pas la mienne non plus, c'est le Mercacuiz qui arrive avec Quentin Guichard.
Quentin, bienvenue. Bonjour. Je fais des petites intros ASMR quand tu arrives, t'as vu ?
Je sens que ouais, tu mets une petite ambiance posée.
Ouais, parce qu'il y a un petit peu de tension.
Il y a un petit peu de tension.
J'ai perdu la semaine dernière.
Ouais, d'une façon assez bizarre. Mais...
Sur du hasard. De façon assez bizarre.
C'est vrai. Et aujourd'hui, je suis d'humeur à débattre. Non, pas chafouine.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?
Moi, j'ai envie de vous poser une petite question.
Ou acheter nos chemises, peut-être ?
Alors, oui, déjà, Dupont et Dupont.
On peut te filer.
Alors, si vous avez une petite adresse.
T'aurais pu quand même.
J'aurais pu, mais vous ne me prévenez pas. Donc, voilà,
on n'a pas besoin de se prévenir.
On va préciser pour ceux qui nous écoutent.
On est connecté.
Pour ceux qui nous écoutent, en fait, Julien et Glenn, visiblement, ont le même dressing.
Ne t'inquiète pas, on en a beaucoup, beaucoup parlé tout au long du podcast. C'est un peu le fil rouge. Donc je suis déçu que tu n'aies pas trouvé le moyen de.
J'étais en train de travailler, excuse-moi.
Et voilà.
Contrairement à toi. Oui, j'ai une petite question là, comme ça, en apéritif, pour ouvrir le Mercacuiz.
Vas-y.
En deux mots, hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage vidéo, Jap, en deux mots ? Pour, contre ?
Pour.
Plutôt pour ?
Alors, je vois ce que tu veux dire. Glenn. Si c'est du. Martin Mosnier, je suis totalement contre.
Bah on va voir ce que ça peut donner. Alors un arbitrage vidéo, puisque vous savez que dans le Mercacuiz on a les toutes dernières technologies et que notre quatrième arbitre Martin Mosnier nous a alerté la semaine dernière sur une possible tricherie. On va envoyer les images et on va laisser Glenn nous décrire ce qu'on voit sur les images.
C'est vrai, j'ai les yeux qui se baladent, yeux qui se baladent tout le temps. Donc, et alors attends, j'ai une question.
Ouais.
Tu as les noms du mec dessus ? Sur tes fiches ?
Absolument pas.
Ah oui, absolument pas.
Non, oui, mais ça te donne un avantage.
Non, mais ça te donne un avantage.
Non, mais attendez, je lis quelle fiche ? Celle que tu es en train de lire. Donc relire ce que tu viens de me dire.
Non, tu sais très bien,
non,
dérouler le contenu de la fiche avec tes yeux.
Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, moi je suis choqué que vous osiez me...
Ah, moi je suis choqué de ce que je vois.
J'ai sorti l'enveloppe rouge.
Le rouge.
Ouais, l'enveloppe rouge. Julien, je vais te laisser la découvrir.
T'as travaillé. Hein. Je suis déçu parce que
là, il y a de la préparation.
À la base, on faisait une émission sur le mercato.
J'y essaye désespérément.
On est en train de faire une émission de télé. Là.
Glenn, j'ai qu'une question.
Dis-moi. Bah vas-y, dis.
Est-ce que tu as triché la semaine dernière ?
Alors, je le dis. Bon, je vais peut-être pas. Si, je le jure sur tout ce que vous voulez. Non, je n'ai pas triché.
Très bien.
La semaine dernière.
Julien,
je le jure.
Julien, tu peux ouvrir l'enveloppe, s'il te plaît.
Ça me vexe même que tu oses me poser la question.
Prime à l'honnêteté, si Glenn reconnaît sa tricherie, alors il peut conserver sa victoire.
Quel escroc.
Alors, je repose la question. Glenn, est-ce que tu as triché la semaine dernière ?
Je n'ai pas lu un mot de ta fiche, donc au pire, tu me l'enlèves, je m'en fous. Mais...
Tu ne vas pas reconnaître.
Non, vraiment, en plus.
Allez, on enlève sa victoire, on n'en parle plus et on lui met une autre défaite aujourd'hui.
Ah non, mais
c'est
vraiment,
réglé.
Je n'ai pas lu un mot de ta fiche.
Ah, il est mauvais gagnant. Ouais, hein. Mauvais gagnant, bon.
On avait des mauvais perdants dans la rédaction.
C'est vrai.
On a maintenant un mauvais
gagnant. Le problème, c'est que. Enfin, je sais pas où mettre mes yeux là quand je suis comme ça.
Mais elle est sur la caméra, Glenn.
Ben oui, je sais, mais tu sais, j'ai besoin pour me concentrer de pas me. Voilà.
Bah ferme les yeux au pire.
Ouais, je vais faire comme ça.
Ça sera pas gênant.
Est-ce qu'on peut y aller ?
On va y aller.
Est-ce qu'on
peut
se faire un match dans les règles, en toute honnêteté, en toute loyauté ?
Ben je suis un peu vexé là, mon cher.
Moi aussi, je suis vexé.
On est tous vexés là. On a tous pris la mouche.
Absolument.
Les règles du Merca Quiz.
S'il te plaît.
Je vais dérouler la carrière d'un joueur. Et le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur en question, eh bien, marque un point au Merca Quiz Ranking que visiblement, Glenn, voilà, tu y accordes peu d'importance. Bon.
Totalement.
Une deuxième règle. C'est la règle Pereira moins 1. Là, je te prends de court, j'ai l'impression.
Ouais, j'en ai trouvé un, là, comme ça, à la volée.
La proposition, la suggestion d'un nom. Avant même le tout premier indice, je vous écoute.
Romain Alexandroni.
Alors, non.
Qui
joue en Chine maintenant, ouais.
Shenzhen.
Qui nous écoute. Donc, on l'embrasse.
Pour moi, ça sera Julian Weigel.
Oh, pas mal. Mais
trop gros. Pff,
non, trop compliqué. Enfin, Glenn n'aurait jamais trouvé Julian Weigel. Donc, bon.
Certes.
Donc, non.
Bah, sauf en lisant ta fiche.
Ah, bah, bien sûr.
Du coup.
Ouais. On va y aller ?
On y va. Glenn, regarde la caméra.
Ouais. Mais je n'arrête
de
pas.
De toute façon,
là,
on a le quatrième arbitre du jour. C'est Adrien Yo à la réalisation. Il surveille et il m'a dit qu'il était prêt à annuler l'émission si jamais Glenn ziotait les
fiches. Je vais surtout rien ne pas participer.
Allez,
c'est parti. Je grandis à la cité Kellerman, quartier de la petite ville de Saint-Dié-des-Vosges, située dans la région historique et culturelle de Lorraine. La commune fait maintenant partie de la région administrative Grand Est. Ses habitants sont appelés les Déodaciens. Un petit peu de culture. On ajoute
on
un peu de culture.
On est sur le service public ou quoi là ?
Ouais, mais ça fait toujours, okay, toujours plaisir. Pas. Je débute en 1999 au sein du SRD Saint-Dié et j'intègre en 2004 le centre de formation du FC Metz. Mais, jugé trop juste, je repars pour le club de mes débuts. Je poursuis mon apprentissage du football, puis joue deux saisons en CFA 2 avec eux avant de séduire les Grenats et de rejoindre à nouveau le FC Metz en juillet 2009.
Sadio Mané.
Où je finalise ma formation.
À des bailleurs. Ah non, ils sont en activité, pardon.
La saison suivante.
Ça fait peur.
J'atteins avec les jeunes Messins la finale de la Coupe Gambardella face au FC Sochaux, avec notamment comme adversaire Cédric Bakambou, que je côtoie par la suite en équipe de France des moins de 20 ans. Metz remporte cette finale au tir au but, c'est le premier trophée de ma carrière. Je remporte également cette saison-là le championnat de CFA 2 avec l'équipe B du FC Metz. J'intègre la saison suivante le groupe professionnel de Metz sous la houlette de Dominique Bijota.
Je l'ai vu. Je sais comment t'as chopé ton joueur, j'ai vu l'interview.
En août 2010, je fais ma première apparition en Ligue 2 lors de la quatrième journée face à Vannes pour une victoire 1-0. En avril 2011, je marque le premier but de ma carrière professionnelle face à Clermont à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2. Je dispute pour ma première saison 19 matchs de Ligue 2 et 2 matchs de Coupe de France. À la suite de ma première saison prometteuse en pro, je suis appelé par Éric Monberts pour jouer avec l'équipe de France lors du tournoi de Toulon 2011, au cours duquel la France atteindra la finale et où je dispute 3 des 5 rencontres de la France en tant que titulaire, dont la finale. C'est au cours de ce tournoi que le sélectionneur des moins de 20 ans, Francis Merecki, me voit jouer et me préconvoque pour la Coupe du Monde 2011 qui se déroule en Colombie. Je suis rappelé pour pallier la blessure du Brestois Johan Martial. Au départ, amené à être remplaçant, je débute finalement la compétition en tant que titulaire et joue 6 des 7 matchs de l'équipe de France, ratant un match pour cause de suspension. La France termine 4e de ses mondiaux, une première dans l'histoire du football français qui avait dû se contenter jusqu'alors, au mieux, des quarts de finale.
Je l'ai vu.
En juin 2012, le FC Metz est relégué en national, ce qui me pousse à chercher un nouveau club. Et c'est le club belge du KRC Genk qui obtient mon transfert. J'y retrouve Steven Joseph Monrose, mon coéquipier en équipe de France des moins de 20 ans.
Pourquoi tu rigoles ?
Bah parce que j'adore Steven Joseph Monrose.
Ah d'accord, ça va, t'as réussi à t'échapper.
Je joue mon premier match sous mes nouvelles couleurs en découvrant la Coupe d'Europe lors d'une rencontre de Ligue Europa face au FC Lucerne en août 2012. En décembre 2012. J'inscris mon premier but pour Genk lors d'un match de championnat face à Anderlecht. Je remporte la Coupe de Belgique en 2013 face au Cercle Bruges.
Je l'ai vu cette interview, c'était la semaine dernière.
En mai 2014, après 92 matchs joués et 3 buts marqués avec Genk, je signe à Naples. Je m'impose rapidement grâce notamment à ma polyvalence sur le terrain puisque je suis capable de faire de l'apport offensif en jouant relativement haut sur le terrain. Mon talent et mon grand professionnalisme font de moi un joueur extrêmement apprécié et respecté par beaucoup de supporters, et pas seulement ceux de Naples. Je suis désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à mon poste et je suis régulièrement courtisé par les plus grands clubs européens.
Mais quoi ?
En août 2015, je réponds à la convocation du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pour le match contre la Namibie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. J'y fais mes grands débuts sous le maillot des Lions de la Teranga, débutant la rencontre comme titulaire. Mon équipe s'impose 2-0. Je participe à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le Sénégal est éliminé dès le premier tour alors qu'ils sont à égalité de points avec le Japon. Les deux équipes sont départagées au classement du fair play. Je suis titulaire lors des trois matchs de la phase de groupe de mon équipe.
À Naples ?
En décembre 2018, je suis l'objet de cris racistes lors d'une rencontre du championnat italien face à l'Inter Milan au
stade Koulibaly.
Voilà.
Oh là là.
C'était très long, c'était beaucoup trop long pour un joueur du calibre de Koulibaly.
Mais évidemment.
Je ne vois pas comment vous n'avez pas eu l'étincelle à la signature à Naples.
Mais non, mais le début, je l'ai lu il n'y a pas longtemps en plus et j'arrivais pas à retrouver. Je suis désolé, pardonnez-moi. Mais bon, j'ai gagné.
Glenn, coiffé sur le poteau.
Ouais, je l'avais là, je crois.
C'est
là.
Plus compliqué quand on regarde pas les fiches, Glenn.
Et voilà.
Non, mais ouais.
24e au Ballon d'Or 2019.
Évidemment.
Ouais. Et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Ouais.
Et il était facile.
Transféré à Chelsea cet été, l'été dernier.
On arrive à la fin de la fiche là.
Ouais, là on arrive vraiment à la fin de la fiche. Et il a récupéré le numéro 26 de
John Terry.
De John Terry, ouais.
Voilà, ça fait 2 points de plus.
Et sélectionné il y a quelques jours par Aliou Cissé pour à nouveau participer à la Coupe du Monde. Et ben voilà.
Ben voilà.
Une nouvelle
ça
victoire.
Fait une nouvelle victoire.
Est-ce qu'on n'a pas éteint Glenn là avec toute cette histoire de.
Bah là, je suis déçu de ce
procès.
Oui, totalement.
J'ai envie de dire qu'à l'heure régulière, tout se passe comme prévu.
Je l'avais là en plus.
Tu l'avais là.
Comme ouais. Eric l'avait là.
Eric l'avait là, bien sûr. Ouais.
Voilà, c'est sur cette belle boutade que nous terminons cette émission. Dernière émission avant la Coupe du Monde. On se retrouvera juste après les autres émissions de Eurosport Football Club. Tour d'Europe qui devient Tour du Monde et le FC Stream Team. Continue, vous en retrouverez durant toute la compétition. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.